Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. En effet, comme l'a dit Francis, officiellement, on a remis la charge à Timothée hier, on a eu une réunion du Conseil. Mais voilà, on est toujours là, avec vous, heureux d'y être et de pouvoir continuer à servir le Seigneur ensemble. Alors je voudrais ce matin, justement, puisque nous sommes quand même à un peu un tournant de la vie de l'Église, vous rappelez deux, trois choses. Notamment, le texte que j'avais en tête, et j'ai déjà prêché il y a quelques dimanches à ce sujet, c'est le texte de Jean 15:15, où Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » On aime bien ce texte, n'est-ce pas, ces textes où Jésus dit « Je vous ai choisi ». Ça nous fait plaisir de savoir que nous sommes choisis par Jésus. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 70, il dit aussi « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ?» Et nous aussi, nous sommes de ceux qu'il a choisis. Mais lorsque l'on est choisi, ça, il faut répondre à ce choix. Il nous choisit et nous. Est-ce que nous le choisissons? Pour vous donner un exemple, je pensais à un jeune homme qui est séduit par une jeune fille et qu'il voudrait choisir pour en faire son épouse. Alors il faut bien qu'à ce choix du jeune homme réponde le choix de la jeune fille, n'est-ce pas? Sinon ça ne peut pas marcher. Alors j'ai connu des jeunes gens qui voulaient appuyer leur demande en disant « Le Seigneur m'a dit que tu serais mon épouse. » Et la jeune fille répond « Oui, mais moi, il ne me l'a pas dit. » Vous voyez, quand il y a un choix, soit on répond oui, soit on répond non. Et alors nous aussi, donc, nous devons répondre au choix de Dieu sur notre vie, pour le suivre. Oui ou non, voulons-nous suivre le Seigneur? Alors si vous êtes là ce matin, c'est certainement que vous avez déjà répondu oui au Seigneur. La conversion, ce n'est que le point de départ, ce n'est que le début de notre vie chrétienne. Et en réalité, chaque jour, nous sommes invités à choisir de nous réengager avec Dieu, de le servir, d'agir, de penser même comme Jésus. C'est-à-dire être dans l'état d'esprit d'un chrétien selon les valeurs chrétiennes et non les valeurs du monde. À ce sujet, je pensais au texte de Josué, Josué 24. On est à la fin du ministère de Josué. Vous savez que son ministère, après celui de Moïse, ça a été de conquérir le pays de Canaan pour faire rentrer le peuple dans le pays promis. Voilà, le peuple est installé, toutes les tribus sont installées chacune dans leur territoire. Et donc, il commence, Josué, donc, à rappeler toutes les grandes choses que les enfants d'Israël ont vécues sous la conduite de Dieu. La vocation d'Abraham, ça remonte loin, hein, parce qu'il y a eu 400 ans d'esclavage. La sortie d'Égypte, la victoire remportée sur les ennemis, la conquête et le partage du pays, les bénédictions que Dieu a répandues sur chacun de ses enfants. Et après cette énumération des bénédictions, Josué interpelle le peuple et lui dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Maintenant donc, il y a des obligations qui vous sont imposées du fait que Dieu vous ait choisi et que vous ayez répondu à son choix. « Craignez l'Éternel, dit Josué, servez-le avec intégrité et fidélité. » Intégrité, c'est-à-dire de tout votre cœur. Fidélité ou vérité, c'est-à-dire sans hypocrisie. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alors j'étais frappé par le dialogue qui s'installe entre Josué et le peuple. Regardez ici, donc, dans ce passage, au verset 15, Josué dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit : « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. » Bon, très bien. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car l'Éternel est notre Dieu. Et que répond Josué au verset 19 ? Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'était un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Alors le peuple réaffirme qu'il veut servir l'Éternel, et Josué dit encore non. Enfin, c'est le peuple qui dit non, nous servirons l'Éternel. Nous voulons servir l'Éternel. Au verset 21. Et finalement, au verset 22, Josué leur dit : « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi de servir l'Éternel. » Ils répondirent : « Nous en sommes témoins. » Et le peuple dit à Josué, au verset 24, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Alors, en lisant ce texte, on pourrait penser que Josué cherche à dissuader le peuple d'être fidèle à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, il craint que le peuple ne s'engage trop à la légère, sans être conscient de ses responsabilités et de ses faiblesses, parce qu'il a manifesté pas mal de faiblesses tout au long de son parcours. Et il rappelle au peuple l'impossibilité, l'incapacité dans laquelle il se trouve de servir Dieu avec ses propres forces. Et alors, après cet échange serré, je dirais presque solennel, on arrive justement au verset 22 avec cette déclaration surprenante : « Vous êtes témoins contre vous-même. » Et là, vous voyez, me semble-t-il, ce n'est pas simplement quelque chose de solennel, c'est quasiment un acte juridique. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas vos engagements, vous en subirez les conséquences. Parce que votre choix vous engage. Et Josué, donc, veut montrer la gravité, la solennité de l'engagement avec Dieu. Alors nous aussi, nous sommes engagés ensemble depuis environ 3 ans, comme l'a rappelé Francis, pour que cette Église, après toute la période de difficultés du Covid et autres qu'elle a connues, revive de la puissance du Saint-Esprit. Ensemble, nous avons œuvré d'un même cœur, avec un même enthousiasme, pour la cause de Dieu, pour son royaume, pour que sa gloire paraisse au milieu de nous. Et nous sommes reconnaissants de tout ce que Dieu a accompli. Et pour l'engagement et le choix de chacun d'entre vous, sans lequel rien n'aurait été possible. Et nous voici arrivés, comme le peuple d'Israël, à une nouvelle étape. Nous avons ensemble choisi de recevoir un nouveau pasteur. Et maintenant, nous sommes invités à continuer à servir l'Éternel avec intégrité et fidélité, en soutenant Timothée et le conseil qui est auprès de lui et que vous connaissez, Adnan, qui est là-bas dans la cabine technique, Boris, qui était là à la louange, ils sont là-bas tous les deux, Sidelina, qui est ici, Mathieu, qui n'est pas là, mais aujourd'hui il est représenté par ses parents, exceptionnellement. Et puis tous ceux qui sont impliqués dans les différents services. Et vous tous, les frères et sœurs, membres de l'Église, qui contribuez à faire grandir l'Église et qui contribuez par votre prière. Alors nous avons fait le bilan de nos activités de l'année écoulée lors de l'Assemblée Générale. Je ne vais pas y revenir. Mais là, nous devons être attentifs à l'interpellation de Josué au peuple. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir, continuer à servir l'Éternel avec Timothée, avec l'équipe qui est autour de lui, tous ensemble d'un seul cœur, servir l'Éternel. Et il y a des moments, des rendez-vous divins où on est amené à exprimer à nouveau notre choix, à réévaluer notre engagement et à dire « Oui Seigneur, compte tenu de tout ce que nous avons vécu avec toi. Compte tenu de toutes les bénédictions dont tu nous as comblés au cours de ces années écoulées, nous choisissons à nouveau de servir l'Éternel. Est-ce bien là notre volonté? Est-ce bien là notre décision? Amen. Donc voilà, je voudrais que, comme à l'époque de Josué, nous considérions solennellement notre engagement, de façon quasi juridique. Regardez Jésus lui-même. Ne s'est-il pas engagé de façon carrément juridique pour nous? Il a été arrêté. Il est passé en jugement. On a produit des faux témoins contre lui. Et par sa mort et sa résurrection, il nous a justifiés devant Dieu, déclarés justes. Frères et sœurs, compte tenu de cette grande bénédiction que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, ce matin, nous nous devons de nous laisser interpeller par la parole de Dieu et de choisir, avec tout le sérieux nécessaire, de continuer à servir l'Éternel. Alors, choisir de servir l'Éternel, ben vous allez me dire, ben bien sûr, on est tous d'accord. Qui ici ne serait pas d'accord pour une telle perspective? Mais voyez-vous, frères et sœurs, il faut que ce choix soit clairement exprimé. Et non pas une fois le jour de notre conversion ou de notre baptême, mais tous les jours, on renouvelle ce choix, un choix explicite. Vous savez pourquoi? Parce que si nous ne choisissons pas explicitement de servir Dieu, on choisit implicitement Satan. Ah, vous allez me dire, mais comment ça? Eh bien voilà, c'est ça le résultat de la chute. Satan a dit à Adam et Ève dans Genèse 3, verset 1, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il leur a dit en quelque sorte, « Ne vous inquiétez pas, ça va bien se choisir, ça va bien se passer. » Il leur propose de choisir entre Dieu et Satan. Il ne l'a pas dit aussi clairement que ça, mais ça revenait à ça quand même. Et qu'ont-ils fait? Finalement, ils ont choisi Satan. Et implicitement, ils ont rejeté Dieu. Ils ont soumis le monde au péché et ils se sont séparés de Dieu. Et aujourd'hui, le choix de Satan est arrêté. Vous savez ce que dit l'apôtre Jean, 1 Jean 5, 19 ? Le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous le voyons bien, n'est-ce pas ? Dans tout ce qui se vit actuellement. Et on ne peut sortir de cette spirale infernale qu'en choisissant explicitement de servir le Seigneur. Et c'est ce que vous avez fait à votre conversion. Mais comme je le disais, il faut que ce choix soit renouvelé, réévalué, renouvelé chaque jour dans notre communion avec le Seigneur. Et il y a un texte dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, les versets 19 à 20, qui se situe au moment de la passation de pouvoir, justement, entre Moïse et Josué. Et il dit ici, c'est Dieu qui dit ça, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. » Il y a toujours un choix. Et nous savons que Satan est toujours là pour venir nous titiller, si je puis dire, et essayer de nous tirer en arrière pour que nous nous détournions de Dieu. Et il y a des personnes qui se laissent séduire. La parole de Dieu nous prévient qu'à la fin des temps viendront des hommes qui nous séduiront par toutes sortes de miracles. Soyons attentifs, frères et sœurs. Et choisissons de servir l'Éternel. En choisissant, vous recevez la pensée de Dieu. Vous recevez les valeurs du royaume de Dieu. Et j'aime bien ce texte de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, où il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Est-ce que vous avez dans votre cœur, frères et sœurs, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ? Il y a un livre que j'ai lu il y a quelque temps qui s'appelle « Que ferait Jésus à ma place ?». J'ai trouvé ce livre très intéressant parce que il nous incite, dans toutes les circonstances de notre vie, à réfléchir à ce que Jésus ferait s'il était à notre place. C'est intéressant comme réflexion, vous ne trouvez pas ? Que ferait Jésus à ma place ? Alors, vous voyez, j'ai pensé à une chose ces temps-ci, ici, on est bousculé par tous les événements qui se déroulent dans notre pays. Et je me disais, on est invité à faire un choix, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a des élections. Et je me disais, que ferait Jésus à ma place ? C'est une question qui mérite que nous nous y arrêtions. Avons-nous les sentiments de Jésus pour choisir ? Alors je me permets de vous poser la question ce matin. C'est la première fois que je me permets une telle intrusion dans la vie politique en 50 ans de ministère. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, quand certains nous parlent de préférence, ils nous parlent de séparation, de méfiance à l'égard de ceux qui ont une double nationalité, de se méfier de l'étranger. Alors vous pouvez être certain qu'on n'a plus les sentiments de Jésus, ni sa pensée, ni les valeurs de l'Évangile. On n'est plus dans les principes de la parole de Dieu, ni même d'ailleurs dans les principes énoncés par les hommes eux-mêmes. Vous savez que la France, on nous le dit continuellement, est le pays des droits de l'homme. Et le premier article nous dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Tous, apparemment. Mais bien avant ça, déjà l'apôtre Paul nous avait interpellés 2000 ans à l'avance dans Galates 3:28 en disant « Il n'y a plus en Christ ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ». Et on dit que Paul était misogyne, mais regardez, il était féministe avant l'heure. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni juif ni grec. Les grecs, ça représentait tous ceux qui, en dehors du peuple juif, étaient dans l'Empire romain. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Tous égaux, pas de différence, pas de discrimination. Et quand on reprend la parole de Dieu, on est frappé de voir comment la parole de Dieu insiste là-dessus, dans Exode 12, 49. La même loi existera pour l'Israélite comme pour l'étranger en séjour au milieu de toi. Tu n'opprimeras point l'étranger. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre les personnes. Qui ne reçoit pas de présent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas soudoyer Dieu pour lui dire, bon, tu peux me faire une petite faveur. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, qui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Il y a plus de 70 passages dans l'Ancien Testament qui nous invitent à aimer, respecter notre prochain, fût-il un étranger. Alors bien sûr, il faut des lois. Ça, je suis d'accord. Il faut des lois pour organiser les choses. Mais recevoir, s'accepter, se soutenir, c'est la base de l'Évangile. Regardez comment Jésus lui-même s'est comporté. Dans Jean 4, il y a cette histoire de la femme samaritaine. Vous vous souvenez qu'il y avait un différend entre les Juifs et les Samaritains qui datent de l'Empire perse, c'est-à-dire 5 siècles avant Jésus-Christ. Un antagonisme qui s'est enraciné depuis des décennies et des siècles, à tel point que pour se rendre de Judée en Galilée, si on peut voir la carte éventuellement. La Judée est tout au sud. Au milieu, il y a la Samarie. Et au-dessus, vous voyez, en rose, c'est la Galilée. En orange jaune, là, c'est la Samarie. Et tout en haut, en orange clair, c'est la Galilée. Et vous voyez, ce territoire, il est coincé entre la Méditerranée à l'ouest et le Jourdain à l'est. Et les Juifs, pour aller de Judée en Galilée, ils contournaient la Samarie, ils traversaient le Jourdain, ils passaient par la Décapode, vous voyez, là, en jaune. Ça faisait un détour terrible. Et puis le Jourdain, vous savez, c'est quand même un fleuve relativement important. Il n'y a pas des ponts tous les 200 mètres, comme sur la Seine à Paris. Donc ça faisait un sérieux détour. Et pendant 5 siècles, on a fait ça, pour éviter de passer en Samarie. Et que fait Jésus, lui? Regardez ce que dit l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 3, il nous est dit « Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. » Donc il fait ce trajet que je vous ai montré. « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva à une ville nommée Sichar. » Jésus, lui, ne fait pas le détour. Pourquoi ne fait-il pas le détour? Non pas parce qu'il ne veut pas faire un chemin plus long, mais il fait exprès de passer en Samarie, parce qu'il refuse de rejeter l'autre, il refuse de le mépriser, d'avoir peur de celui qui est différent. Il va à sa rencontre pour offrir le salut. Et vous savez comment les choses se sont passées avec cette femme samaritaine qu'il a rencontrée au puits de Jacob. Parce que Jésus est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu et réconcilier les hommes entre eux. C'est en Jésus-Christ que nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Parce que tous les hommes ont droit à l'amour de Dieu. Regardons encore cette fameuse parabole du bon samaritain. On la connaît tellement qu'on ne se souvient même plus que le samaritain, c'est quelqu'un de complètement honni par le peuple juif, dans Luc 10. À qui Jésus raconte-t-il cette histoire? À un docteur de la loi. Un docteur de la loi qui sait mieux que quiconque ce que représentent les Samaritains pour un juif, après 5 siècles de méfiance et de rejet. Et qui met-il en scène? Un sacrificateur, celui qui représente Dieu auprès du peuple. Et que fait-il, le sacrificateur? Il ne s'arrête pas pour soigner son compatriote juif qui est là, blessé sur le bord du chemin. Un juif comme lui. Non, il ne s'arrête pas. Ensuite arrive un lévite. Qui est-ce, le lévite? C'est l'assistant du sacrificateur. Et il agit comme le sacrificateur. Et finalement arrive qui? Un samaritain. La pire espèce pour un juif. C'est lui précisément qui s'arrête, qui prend le temps de s'occuper, de soigner le blessé. Celui qui est rejeté, c'est lui qui s'occupe de celui qui le rejette. Vous voyez comment Jésus agit? Il ne fait pas de différence entre les personnes, parce que chacun a la même valeur aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, voilà, ce sont là les critères de la parole de Dieu que nous devons suivre à l'exemple de Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Que choisirait Jésus? Je vous laisse y réfléchir. Mais nous devons être attentifs à nos choix, frères et sœurs. Parce que ceux qui font des préférences entre les personnes, ceux qui rejettent l'étranger, ceux qui rejettent celui qui est différent, vont petit à petit contrôler ceux qui sont justement différents. Et le risque, c'est qu'ensuite, ils s'en prennent aux minorités. Et les chrétiens sont des minorités. les chrétiens évangéliques. Alors, frères et sœurs, regardez l'Église que nous sommes ici. Dans toute sa diversité, n'est-ce pas un enrichissement, toutes ces différences culturelles qui se retrouvent sous le regard du Seigneur? Tous ces frères et sœurs qui viennent de différents pays. On a ici des gens de Haïti, n'est-ce pas? Où sont les Haïtiens? Il y en a pas mal ici dans l'Église. Voilà. On a des Iraniens. Ils sont pas là aujourd'hui. On a des gens de différents pays, des Malgaches, des Anglais, des Finnois. On a toutes sortes de gens, toutes sortes de nationalités, des Portugais. On pourrait multiplier. Même Trinidad. Faut le faire quand même, hein. Vous avez souvent rencontré des gens de Trinidad. Eh bien, on en a. Et puis voilà, on voit tous ces pays en guerre. Justement, Haïti, encore ces jours-ci, on a vu les exactions qui se passent là-bas. Le Congo, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, mais c'est quand même la guerre. L'Ukraine, etc., etc. On pourrait énumérer une liste incroyable de pays où la guerre sévit. Alors, frères et sœurs, souvenons-nous. Choisir de servir l'Éternel, ça commence par aimer son prochain comme soi-même et avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, je terminerai avec ce verset de Romains 13, 8, nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que tu as mis en nous ta pensée. Tu as mis en nous les sentiments de Jésus-Christ, d'amour, de soutien, de respect. Probablement, nous sommes imparfaits dans notre expression de l'amour vis-à-vis de nos frères et sœurs. Tu connais nos faiblesses, tu connais notre dimension humaine, notre faiblesse humaine. Mais nous te prions, Seigneur, au moment où nous franchissons une nouvelle étape dans la vie de l'Église, nous te prions de nous conduire, de nous accompagner, de bénir Timothée et sa famille qui vont arriver prochainement. Tous ensemble, nous les bénissons au nom du Seigneur. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, que ta grâce repose sur chacun d'entre nous et que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans les choix que nous allons faire au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci Seigneur. J'invite ceux qui sont désignés à s'approcher pour distribuer la Sainte-Cène.